pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Alors, je ne sais pas si vous avez lu le dossier qu'on a fait dans le numéro d'été sur les sans-papiers. Ce que je vais vous dire là, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce dossier, si ce n'est que je ne parlerai pas de la lutte des MENA, je crois que tu pourras en parler largement.
Non, j'en sais pas plus que ce que j'ai écrit.
Que tu as écrit, bah oui, oui. Je vous parlerai surtout des travailleurs sans papier, l'accueil dans les préfectures, et comment que ça se passe maintenant, parce qu'il y a eu des changements énormes. Le premier changement, c'est que l'immigré qui veut avoir un fonctionnaire devant lui pour s'expliquer et pour se faire régulariser aura bien du mal de l'avoir, puisque tout se passe par rendez-vous. Maintenant, il n'y a plus de queue comme il y avait à une époque où les migrants et les immigrés étaient obligés de se lever à 5h du matin, voire même avant, pour faire la queue et pour espérer être pris par un fonctionnaire. Maintenant, non, tout se passe par rendez-vous, sauf éventuellement pour les demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'au niveau des préfectures, ils ont résolu le problème dès que. Il n'y a plus de queue, plus rien. C'est même étonnant d'ailleurs. Des fois, dernièrement, j'ai accompagné un demandeur d'asile et les bureaux habituels des demandes de papier, régularisation et tout le bazar, était vide, il n'y avait personne. Depuis un certain temps, il est venu quelqu'un, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait rendez-vous. Alors pour avoir un rendez-vous, évidemment, ça doit se passer par Internet. Donc, l'immigré a intérêt à avoir Internet, et ensuite, il faut qu'il y ait une plage disponible. Et la plage disponible, c'est très difficile d'en dégoter une. À tel point qu'à une époque, il y a de ça quelques années, 3 ans, 4 ans, les créneaux de rendez-vous possibles étaient marchandés. C'est-à-dire que il y en a qui les achetaient, qui les vendaient au plus offrant, etc. Il y a encore un site qui prévient, parce qu'il a un robot, qui est au courant de tous les créneaux disponibles en préfecture. Grâce à ce robot, eh bien, il est, si tu es adhérent à leur histoire, ça ne coûte que 9,90 €, donc ça va. Tu peux effectivement prétendre à être inscrit. Voilà, c'est comme. Alors bon, après, quand vous êtes devant le fonctionnaire, ce n'est plus comme avant, où il y avait des fois souvent des cadres de la préfecture, des gens donc qui connaissent leur boulot. Maintenant, c'est tous des jeunes qui débutent, qui n'y connaissent rien, si ce n'est que demander tel ou tel papier aux personnes. Alors voilà, je crois qu'il y a l'ambiance qui a complètement changé. Ensuite, il faut savoir que si vous êtes sans papier et que vous demandez votre régularisation, là, vous n'aurez pas de rendez-vous. C'est pas possible. On vous demande d'envoyer tout votre dossier par la poste. Par la poste, eh oui. En recommandé. Et votre dossier sera étudié on ne sait pas quand. Vous serez peut-être prévenu que c'est complet. Mais non, vous serez prévenu surtout s'il n'est pas complet. S'il est complet, on ne vous dira rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis bientôt 2 ans, c'est le silence des préfectures qui est absolument scandaleux. Quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de réponse aux questions que tu poses. De toute façon, tu n'as pas d'interlocuteur. Tu peux toujours faire un mail au préfet. Il ne te répondra pas ou il te dira de prendre contact avec ses services et de prendre un rendez-vous. Donc voilà l'ambiance. Même pour les gens qui ont des cartes, qui veulent la faire renouveler, on s'aperçoit que c'est des fois pas possible, tellement que ça dure de temps. C'est-à-dire que ces personnes vont se retrouver pendant un certain temps sans papier et vont avoir des tas de problèmes au niveau de leur vie quotidienne. Ouais, par exemple, l'emploi, et puis aussi les allocations familiales, et puis etc., etc. C'est vraiment l'horreur, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, bon, que dire, si ce n'est que... Moi, je fais partie d'une petite association rémoise qui existe depuis 39 ans. Ouais. 39 ans. Et qui accueille ceux qui sont en demande de papier, ceux qui veulent se renseigner sur la loi pour faire en sorte de les dépatouiller. Il faut dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai été un peu débordé par le nombre de coups de fil que je recevais. Les coups de fil et les rendez-vous se font dans une maison de quartier qui m'hébergent et qui sont bien contents de m'avoir, puisque c'est vraiment au cœur de l'immigration rémoise. Ils sont souvent sollicités par leurs propres adhérents. Voilà, donc ce qui se passe, je suis donc un peu au courant de ce qui se passe. Alors après, il y a le problème des travailleurs sans papier. Il y a tout dans les travailleurs sans papier, au niveau de leur histoire. Il y a ceux qui sont embauchés et qui sont embauchés sous des fausses identités. Des fois, d'ailleurs, le patron demande que ça soit une fausse identité. Ensuite, quand c'est la vraie identité, le patron prend un peu de risque d'une amende si jamais on découvre que la personne n'a pas ses papiers. En fait, on s'aperçoit que tu as des petits patrons ou des patrons assez conséquents qui emploient des sans-papiers depuis des années et qui n'ont jamais eu de problème. Alors, les migrants, les immigrés ont tout fait pour faire en sorte qu'ils soient régularisés. Certains patrons, voulant garder leur main-d'œuvre bien pratique, ont fait aussi de leur côté des démarches, mais ça n'a rien donné pour l'instant. Alors, je m'occupe d'un cas, c'est mon cas record. Il y a 2 ans, j'ai monté un dossier avec un couple de Géorgiens pour demander leur régularisation. C'est des gens qui bossaient dans un espèce de restaurant, boîte de nuit, etc. Elle était serveuse et lui était vigile. Et ils étaient donc embauchés depuis déjà plus d'un an sans papier. Le patron savait qu'ils étaient sans papier. On a déposé un dossier il y a 2 ans et ils étaient reçus pour la première fois aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, quoi, c'est l'horreur la plus totale. Ensuite, je me suis posé la question pourquoi il y avait un tel battage au niveau des métiers sans tension, parce que la plupart des gens, des immigrés qui bossent sont dans des métiers sous tension, évidemment. c'est pas, c'est rare qu'ils soient dans un métier où il n'y a pas de problème de main-d'œuvre. Alors en fait, j'ai découvert progressivement, je ne l'avais pas découvert quand j'ai rédigé l'annonce du débat de ce soir, je l'ai découvert quand j'ai fait l'article dans CA. C'est pas mal, le but est clair. Le patronat n'a pas trouvé sa main-d'œuvre dans les sans-papiers présents sur le territoire, il pourra aller la chercher à l'étranger. La procédure d'introduction, donc, a été simplifiée. Le dossier est constitué par l'employeur, déposé par celui-ci sur la plateforme en ligne, c'est une plateforme en ligne, qui est dédiée au ministère du Travail. Pour les métiers en tension, l'introduction du dossier bénéficie d'une dispense, évidemment, d'opposabilité à la situation de l'emploi, d'un traitement prioritaire par les services compétents avec un délai réduit à 2 semaines. Incroyable, quand on sait que certains qui demandent leur régularisation par le travail ont mis 2 ans pour avoir éventuellement une réponse, là ça dure 2 semaines. En cas de décision favorable, l'autorisation de travail est transmise à l'employeur. Le futur salarié devra déposer une demande de visa de long séjour auprès du consulat de France. Muni de son visa, il devra effectuer une visite médicale à l'OFI, puis il obtiendra un titre de séjour pluriannuel d'un an, mention salarié. Cette procédure simplifiée permet d'aboutir à l'arrivée effective du salarié en France en moins de 3 mois. Vous avez bien vu, en moins de 3 mois. Donc, les patrons aujourd'hui en France qui ont des problèmes pour recruter des sans-papiers vont aller chercher leur main-d'œuvre au pays, comme au bon vieux temps de ce qui se passait au niveau de l'automobile, des houilles, etc., hein, des mines, etc. Maintenant, ils pourront le faire et ça sera très rapide. Il parle de 3 mois, ce qui est énorme, c'est incroyable. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, que pour demander, pour avoir une réponse concernant sa demande, par exemple, de titre de renouvellement de titre de séjour, ça met 2 à 4 mois. Première demande de titre de séjour, 3 à 6 mois. Changement de statut, vous êtes un statut étudiant, vous voulez passer au statut travailleur, ça met de 4 à 8 mois, carte de séjour résident, 6 à 12 mois, etc. C'est-à-dire que c'est assez incroyable, quoi. C'est une aberration la plus totale. Bon, alors, si vous avez des questions, allez-y. Ouais.
Juste pour précision, ce que tu disais par rapport au débat fait en ligne pour les personnes qui sont au pays et pour une demande pour venir ici, c'est qu'en théorie, pour l'instant, ce n'est pas encore appliqué.
Si,
c'est appliqué. Et il y a déjà des personnes qui sont arrivées dans ces...
Ah, bah c'est en train, là.
Non, en fait, je sais pas.
Vas-y.
C'est une parole, mais la procédure d'introduction de main-d'œuvre existe déjà depuis des années. Théoriquement, on était encore dans le dogme des années 70 avec la fin de l'immigration de travail, mais c'était un dogme théorique, parce qu'en fait, j'en sais rien depuis combien de temps, mais depuis déjà un certain nombre d'années, il y a environ en moyenne à peu près 30 000 personnes qui arrivent par 4 salariés qui sont délivrés chaque année par ce biais-là, en fait. Les employeurs qui ne trouvent pas sur place ici en France vont via les réseaux consulaires, etc., essayer de choper de la main-d'œuvre et faire venir des salariés comme ça. Donc, là, c'est un peu plus institutionnalisé, il y a plus de communication, ils vont peut-être essayer de fluidifier les procédures administratives pour favoriser ça, mais ça existait déjà depuis quelques années, en fait. Hein. Ça ne représente pas des chiffres énormes, parce que 30 000 personnes par an, c'est faible par rapport, ça fait quoi? Ça fait à peu près 10% de nouvelles cartes délivrées, en fait. Mais c'est pas complètement nouveau. En fait. Ouais.
Et du coup, est-ce qu'on sait quel type de métier qui arrive dans ces cadres-là? Parce que ça me semble effectivement aberrant, comme tu soulignais déjà, c'est que il y a tant de personnes qui travaillent déjà ici, on les légalise pas, mais par contre, on fait venir. Mais on sait quel type de profil, en fait, dans ce cadre qui arrive.
Il y a de tout. Il y a à la fois des ingénieurs qualifiés, il y a des ouvriers pour les chantiers navals de Saint-Nazaire, il y a des travailleurs saisonniers pour la récolte des fruits.
Les listes de métiers en tension sont définies par région.
Oui, ça
oui.
Elles sont
publiées, elles sont accessibles sur Internet sans problème.
Oui, la FNSEA, elle a des contrats tout à fait clairs avec des pays qui l'intéressent pour avoir une main-d'œuvre.
Le Maroc, par exemple.
Le Maghreb.
Oui, pas forcément, ça peut être aussi des pays de l'Est.
Oui, pays de l'Est.
Peu importe, mais une main-d'œuvre à sa portée, quoi, qui lui servira pour de façon saisonnière. Alors après, que deviennent ces gens? Est-ce que, bon, ils se retrouvent dans l'impur? Est-ce qu'ils rentrent chez eux? C'est pas, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas trop finalement. Alors, ils sont accueillis dans des conditions souvent déplorables.
La condition pour les travailleurs saisonniers, là, c'est des cartes de 6 mois maxi.
Voilà.
La condition pour pouvoir en avoir une l'année suivante, c'est de repartir.
Ouais.
Si la personne ne repart pas, elle est grillée.
Voilà. Enfin, est-ce qu'elle repart?
Sans doute qu'ils doivent rester, hein, mais la majorité repart peut-être.
La plupart, ils repartent parce qu'ils sont encadrés aussi par les flics ou par les administratifs de l'autre côté.
Par leur pays.
Oui, ils tiennent à ce que...
Ils voulaient parler.
Ah. Et après, c'est des contrats avec certains pays où ils peuvent prendre des migrants de n'importe quel pays.
Dans le nouveau truc qui vient de sortir, là, qui est très récent, hein, il y a un mois, il n'y a pas de choix de pays.
Mmh. Ouais, je voulais juste compléter ton témoignage en fait, par rapport à tout ce qui concerne les titres de séjour et tout. Maintenant, c'est effectivement le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est tout un programme depuis quelques années de dématérialisation en fait, de toute la procédure de délivrance du titre de séjour qui passe par une plateforme en ligne. Il faut déposer toutes les pièces possibles, etc. Enfin, il faut scanner. C'est un truc super complexe, et en plus, qui est très mal foutu, uniquement français. Aucun tutoriel pour expliquer qu'est-ce qu'il faut remplir, à quelle étape, etc. C'est un truc archi-merdique. Et ce qui est frappant dans les permanences associatives, comme notamment celle de la CIMAD, c'est que le public qui va consulter maintenant les permanences a complètement changé. Auparavant, le public traditionnel, c'était des sans-papiers, puis présent depuis un certain nombre d'années en France, qui demandaient des conseils et de l'aide pour déposer un dossier de régularisation. Ces dernières années, beaucoup, la majorité des gens qui viennent dans les permanences, c'est des gens, soit qui sont déjà en situation régulière depuis des années, et qui ne parviennent pas, à cause de ce système, de cette plateforme dématérialisée du ministère de l'Intérieur, qui ne parviennent pas à faire renouveler leurs papiers, qui sont, soit, comme tu l'as dit, qui sont dans la précarité, donc perdent le boulot, perdent l'APL, perdent le logement, etc., qui sont vraiment dans la merde, et, ou alors des gens qui devraient avoir de plein droit un titre, qui n'arrivent pas à l'obtenir, avec des situations qui durent pendant des mois, voire des années, alors que, juridiquement parlant, ils sont de plein droit dans la délivrance du titre. Donc il y a vraiment tout un phénomène de précarisation administrative via ce système qui... C'est difficile de savoir si c'est délibéré ou pas, ou si c'est parce que grosso modo, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont conçu un système très mal ficelé. Et comme c'est des étrangers, ben, on n'en a rien à foutre. On rafistole le truc par-ci, par-là. Mais c'est pas très grave s'il y a des milliers potentiellement de personnes qui sont dans la précarité. Quoi.
Il y a aussi le fait que ce qui a changé, c'est qu'il fut un temps où il y avait un accès possible à la carte de 10 ans. Qui permettait d'être tranquille pendant une certaine période. Maintenant, quand un travailleur arrive à avoir, une travailleuse, hein, arrive à avoir un sésame pour un an, le problème, c'est que pour le renouvellement, il y aura des problèmes, et en plus, il ne pourra avoir accès à la carte de 10 ans s'il a un niveau de français. Niveau A2. Alors niveau A2, ça veut dire c'est un peu costaud quand même, c'est soi-disant niveau BEPC, mais c'est un peu plus. Et en plus, il faut connaître la géographie française, l'histoire de France, les responsables politiques, Beaucoup de choses, on te pose des questions. Surtout, c'est un véritable examen que tu passes. Tu payes pour le passer, d'ailleurs. Bon, pas très cher, tu me diras, mais si tu le rates, il te rembourse pas. Hein. Bon, donc, on voit que des tas d'immigrés sont coupés de cette régularisation qui était sécurisante, qui est la carte de 10 ans. Maintenant, un travailleur, pour avoir la carte de 10 ans, même pour ceux qui viennent, il a intérêt à montrer patte blanche, c'est sûr, au niveau des institutions françaises. On va lui faire signer un papier comme quoi il respecte la République, comme quoi il respecte notre fonctionnement. Puis l'examen, eh bien, on va lui demander quel est le ministre de l'Intérieur, quels sont les derniers ministres de ceci ou de cela. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bon, généralement, le migrant essaye de se former, quand il a le temps, essaye de se former dans les centres sociaux ou dans les maisons de quartier, comme la mienne dans laquelle je suis. Il y a tout un dispositif qui aide ces personnes à passer cet examen.
Ce sont des bénévoles,
oui, complètement.
Il n'y a pas les moyens non plus.
Pas les moyens non plus pour apprendre le français, par exemple. C'est un bénévole qui le fait. Les inscriptions ont lieu fin août, là. Et le 1er septembre, ça commence, et c'est plein, archi plein.
Et puis c'est écrit et oral.
Écrit et oral, oui.
Comme un brevet des collèges.
Si ils réussissent à faire tous les Français de base.
Eh bien, complètement.
Oui. Je dois préciser aussi, par rapport aux associations qui aident, certaines avaient des multiples financements. Il y a des financements au FI et des financements politiques de la ville, des quartiers, etc. Et ces financements ont chuté brutalement, et beaucoup d'associations, enfin à Limoges, hein, il y a plusieurs associations qui sont en faillite, et donc qui utilisaient du personnel salarié, des formateurs en FLE compétents, et qui sont obligés de les licencier. Ouais. Et il n'y a plus que du bénévolat.
Ouais. Il y a Marianne qui voudrait parler.
Sur les examens que tu as racontés, là où ils doivent savoir plein de trucs et tout ça, c'est pour la régularisation ou c'est pour la naturalisation? C'est toutes ces procédures des examens que tu as racontées.
Les deux, en fait.
Ben, naturalisation, c'est un niveau encore au-dessus.
C'est au-dessus, hein.
C'est B1.
Naturalisation, c'est B1. Ça s'appelle le B1.
Oui.
C'est niveau bac.
C'est
niveau
bac,
hein.
C'est déjà régularisé. C'est ça qu'il faut savoir.
Oui.
Aussi pour la nationalité, mais pour la nationalité, les questionnaires sont encore plus poussés. Enfin, j'ai plus d'exemples en tête, mais j'en avais vu un il n'y a pas longtemps. Je pense que 80% des
populations françaises sont capables de répondre à tout ça.
Ils font des erreurs.
Après, ton étonnement, je partage aussi, parce que moi, pour ma régularisation, je n'ai pas passé un examen, hein, sauf que ça fait 10 ans, enfin, 15 ans. Donc, pour ma régularisation, je n'ai pas, mais c'est nouveau aussi.
C'est nouveau, oui.
Enfin, ça fait plusieurs années, quand même. C'est pas,
oui,
oui.
C'est pas examen A2, A1.
Voilà, tout casse. La famille de
Tu as débarqué chez nous avec dans ton maigre bagage une grande espérance. Tu sais que si on te renvoie chez toi, tu seras emprisonné et plus personne n'entendra parler de toi. À peine es-tu arrivé chez nous qu'on t'enferme, parfois avec femme et enfants, on te tabasse. On te refait ce que tu as déjà enduré chez toi. Tu supplies qu'on te donne un laissez-passer, un visa pour la vie plutôt que pour l'éternité. Tu es un demandeur d'asile. Si tu ne trouves pas asile ici, tu trouveras asile de l'autre côté. Tu attends un billet pour la mort ou pour la liberté. Mon voisin me dit, qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis, ça se passe ailleurs, pas ici. Hélas, mon voisin, ça se passe tout près, à deux pas de chez toi. Et toi et moi, nous marchons libres dans le soleil. Sais-tu que rien n'est sûr sur cette boule ronde? Sais-tu que ce qui est sûr, c'est que rien n'est certain et que nous pourrions devenir, toi comme moi, des sans-papiers? Que sait-on de l'avenir dans le tohu-bohu de ce temps? Si cela arrivait par malheur, alors il ne faudrait pas nous étonner que nous soyons traités comme nous avons traité chez nous, les sans-papiers.
Puisque là, visiblement, la circulaire Valls, qui permettait quand même un certain nombre, visiblement, qui était une sorte de compromis qui permettait des régularisations par le travail, bon, là, forcément, elles sont mises à mal avec le nouveau dispositif. Et là, Retailleau, visiblement, met une nouvelle circulaire avec encore plus de contraintes. Alors, il faudrait relire, hein, il y a plein de petits détails.
C'est 7 ans de présence en France. Alors, tu peux croire que 7 ans de présence en France, vous savez combien on va y demander de preuves différentes à l'immigré? 21.
Ah oui.
3 preuves par an. 21 preuves pour prouver qu'il est là depuis 7 ans.
Et qu'il est clandestin. C'est aberrant.
C'est quoi les preuves?
Alors, c'est des preuves administratives. Convocation à la préfecture. Je sais pas, tu as fait une demande pour te faire régulariser, tu as la preuve, ça fait une preuve. Tu déclares tes impôts, ça fait une preuve. Si tu présentes tous les ans ta déclaration d'impôt, ils vont te dire, bon, vous donnez autre chose que ça quand même, on l'a déjà. Vous savez, on sait que vous faites votre déclaration d'impôt. C'est vraiment des papiers administratifs. Ce n'est pas une convocation chez ton médecin, ce n'est pas une hospitalisation qui prouve.
Une amende.
Une amende, oui. Une amende, oui, c'est vrai.
Pas d'hospitalisation, mais par contre, une amende, oui.
Passe par contre.
L'hospitalisation, ce n'est pas une
transition. Non, il a dit si, okay. Mais pas le truc chez le médecin.
Pas le truc chez le médecin.
Fabien, tu avais fini, parce que j'ai l'impression que tu as...
Non, mais du coup, c'est un complément. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est la circulaire, enfin, ce que j'avais compris, la circulaire machin, Retailleau, là.
Ouais.
Et pour moi, la dernière loi immigration en date, c'est la loi... Donc c'est la loi Darmanin. L'avant-dernière, c'était celui qui est mort, là, comment il s'appelle?
Enfin,
le ministre de l'Intérieur, Colomb. Ouais.
Voilà.
Donc, la loi Darmanin, est-ce que tu peux rappeler rapidement les grandes caractéristiques de cette nouvelle loi immigration de Darmanin?
On t'est recalé.
Il y en a tellement.
Tu ne peux pas être français.
En plus, il faut faire attention, il y a une différence entre circulaire
et
loi. Qui n'est pas une loi.
Oui.
Valls, c'était une circulaire. Mmh. Tu pouvais rentrer dans tous les créneaux
de la circulaire et de ne pas te faire régulariser. Et pourquoi tu ne sauras jamais. Quand la préfecture refuse une régularisation, elle n'a pas à donner d'explication. C'est incroyable.
Et où elle donne des explications qui sont complètement erronées et qui sont complètement en contradiction avec les preuves que tu as fournies. Des fois, elle dit des choses fausses toi, par rapport à... Moi, j'ai quelques exemples comme ça.
Alors, bien sûr, il y a le tribunal administratif. Les gens font appel à la loi, ils passent au tribunal administratif, ils essayent de passer parce qu'il faut déjà prendre un avocat, une association pour appeler. Et en plus, cet avocat, il va peut-être vous demander du fric. Ça peut aller jusqu'à 2000 euros. Récemment, j'ai eu un immigré qui est venu me voir, il faisait un recours au niveau du tribunal administratif pour qu'on prenne en compte ce qu'il disait sur sa demande de régularisation. Et le mec, il a demandé 2000 euros.
Et tu prends le fauteuil ?
Pour essayer de répondre par rapport à Darmanin, ça remonte à un an et demi, c'est un peu lointain dans mes souvenirs, mais c'était un gros paquet quand même. Il y avait plein de dispositions assez hétéroclites. Il y avait notamment plein de dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
Ouais.
Pas pour des questions très profondes, parce que c'était considéré comme hors contexte. Il y avait notamment, ils voulaient établir des prestations sociales après un certain nombre d'années de présence, des trucs discriminatoires, etc. Alors, il y avait tout ce volet-là, quoi. Et il y avait on en a parlé, en fait, il y avait tout le volet sur les titres de séjour pour renforcer les exigences de maîtrise du français sur les titres de séjour. Bon, on a parlé de la carte de résident, mais ça se décline aussi sur les cartes inférieures, c'est-à-dire la carte pluriannuelle de 4 ans, la carte de 1 an. Avec à chaque fois donc une augmentation du niveau exigé pour passer de l'une à l'autre. Parce que quand tu es régularisé, souvent c'est par une carte de 1 an, donc précaire. C'est le CDD du titre de séjour. Et donc l'objectif en général, c'est d'essayer d'avoir un statut plus stable, de passer à la carte pluriannuelle de 4 ans, puis à la carte de résident. Et donc la loi d'Armanin introduisait beaucoup plus d'entraves dans la stabilisation du séjour via l'exigence de français notamment. Avec des dispositions aussi assez hallucinantes comme si tu restes plus de 3 ans avec un seul titre de séjour, avec des titres de séjour de 1 an, grosso modo, si tu n'arrives pas à améliorer ton niveau de français pour passer à la carte de 4 ans puis à la carte de résident, t'es sanctionné, tu peux être sanctionné par le retrait de ton titre de séjour. Voilà, il y avait tout cet aspect-là, il y avait tout un volet aussi sur le droit d'asile avec la généralisation, notamment au niveau des appels contre les refus d'attribution du droit d'asile, du juge unique, au lieu d'avoir 3 juges, tu passes devant, c'est une justice d'abattage, hein, enfin, devant un juge unique, multiplication des procédures accélérées, etc. Il y avait pas mal d'aspects de cet ordre-là. Puis j'en ai oublié.
Oui, et puis le renforcement des OQTF.
Et puis, oui, voilà.
Les mises.
Tout ce qui concerne l'ordre public. Oui.
Enfin, toute une série de mesures hyper répressives. Qui allait aussi dans le sens politique de flatter l'extrême droite, susciter la méfiance vis-à-vis des migrants, considérés comme, tous comme des délinquants en puissance. Il y avait tout ce vocabulaire extrêmement violent par rapport aux migrants, qui on ne peut pas le séparer d'un cadre politique, volontairement politique, de cliver la société, et puis de faire des migrants les hors-la-loi, quoi. Et donc, toutes les mesures là, qui ont été dites, c'est à chaque fois... Alors, ça n'empêche pas les gens de venir. C'est ça qui est fou. Ils viendront toujours. On ne va pas ériger des barrières, on ne va pas mettre des mines partout, des bombes pour les arrêter. Donc, ils viendront. Donc, c'est... Ces pays qui essaient de se cadenasser, c'est complètement politique, en fait. C'est pour essayer de faire monter la tension, la sécurité, tous les arguments de ce type, et non pas pour avoir une efficacité, une efficience par rapport à restreindre le nombre des migrants. Là, ce qui se passe avec l'Angleterre, c'est dément aussi. Un migrant contre un autre, alors un migrant qui est acceptable en Angleterre contre un autre qui sera renvoyé en Angleterre sur Calais, par exemple, ou sur le territoire français. Qu'est-ce que ça veut... Enfin, ça rime à quoi c'est ça, alors qu'ils sont des milliers à vouloir passer et qu'on les empêche de passer alors qu'ils veulent rejoindre leur famille, la langue qu'ils parlent ou qu'ils peuvent parler, etc. Enfin, c'est aberrant, c'est espèce de... la prise d'otage des gens, quoi. Parce que c'est comme des otages. On s'échange des gens comme des marchandises. C'est ça le plus pénible dans cette affaire autour de migration. Et que les lois s'appesantissent sans arrêt, qu'il y ait sans arrêt des circulaires, oui. Mais c'est surtout vers où ça va? Qu'est-ce que ça crée dans la société, quoi? Et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de remise en cause des droits généraux pour tout le monde quand on voit ce qu'on fait subir aux migrants? Parce que bon, c'est tous ces droits qui régressent et qui vont atteindre la plupart des gens partout. Donc il y a vraiment une lutte à mener, il me semble, contre ça, bien lié aussi ça à un contexte politique qui n'est pas seulement hexagonal, mais qui est évidemment européen, qui est mondial. Quand on voit aux États-Unis ce qui se passe, ben, les aberrations, en Italie, enfin, l'espèce de camp qu'on veut mettre sur des îles, dans des déserts, enfermer des gens, les refouler, enfin, on est où, quoi? C'est vraiment un monde complètement taré. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. Il n'y a pas de doute. Alors, c'est, les articles de loi, c'est bien beau. Alors, l'aide aux migrants, c'est absolument indispensable. Parce qu'ils arrivent complètement démunis. Donc, déjà, leur dire dans quoi ils tombent, quel est ce pays de merde dans lequel ils ont essayé de franchir, pour lequel ils ont essayé de franchir des tas de barrières. Ils ont pris tous les risques possibles, ils se sont fait matraquer la gueule, ils se sont fait violer, ils ont été rendus esclaves. Et hop, ils arrivent dans ce qui leur semble être le paradis, et là, paf, on leur tape sur la gueule aussi, on les refoule, on les contrôle. Dès qu'on voit quelqu'un d'un peu noir, un peu basané, allez hop. Sitôt on refoule la frontière, on le voit aux frontières de l'Espagne et de la France, là. Enfin, c'est fou. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de surveiller, de dénoncer, de rassembler les gens, d'empêcher les expulsions, de dénoncer ce qui se passe dans les CRA, grâce à la CIMAD qui peut y mettre son nez, de faire passer des migrants comme on l'a fait lors d'une course du Pays Basque par rapport à la langue basque, avec le procès qui appelle un certain nombre de gens qui les ont fait passer. On est considérés comme des passeurs, parce qu'on franchit, les migrants franchissent avec nous une frontière dont on ne veut pas, en plus, frontière du Pays Basque Sud et du Pays Basque Nord. Enfin, on est dans un monde, mais vraiment... affreux. Alors, quelle lutte on peut mener? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que la vie des migrants, on sait combien, enfin, tes rubriques, les articles montrent combien ils sont démunis, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on a des formes de solidarité qui ne soient pas seulement des béquilles qu'on leur donne et qui sont que du secours ou du bénévolat charitable? Ou est-ce qu'on essaie de soutenir les luttes qui mènent? C'était un peu l'article sur les MNA, par exemple. Parce que c'est impressionnant, la lutte que les MNA ont menée. Ces gamins, des gamins, hein, qui arrivent dans un pays nouveau et qui en prennent plein la figure, qui voient que ce qu'ils avaient espéré n'arrive pas, et qui s'organisent collectivement, qui occupent des endroits, qui font chier les mairies, qui font chier les préfets, et qui sont refoulés à chaque fois, et qui recommencent, et qui essaiment un peu partout, c'est vraiment fabuleux, un peu aussi comme les travailleurs de Chronopost et autres entreprises, qui deviennent exemplaires finalement,
ouais.
Et qui font pas forcément tache d'huile, mais si on répercute ces luttes-là, c'est très très important, que ça donne du courage et du cœur au ventre, et on voit que ça peut généraliser. Bon, excusez-moi, je me suis un peu emballée.
Merci.
C'est un truc.
Merci à toi.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Finalement, parce que dans la plupart des endroits de France, il se passe rien, ils ne s'organisent pas, ils se font aider par des associations qui essayent de trouver des solutions qui les accompagnent au tribunal administratif, etc. Mais justement, malheureusement, eux-mêmes ne s'organisent pas. Même si à Limoges, il y a une association qui est théoriquement association des sans-papiers, mais tu as plus de Français aidants dans cette association que de sans-papiers réels. T'as quelques anciens, 2-3 aussi. Mais moi je me demande comment effectivement faire passer le truc des luttes. Bon, il y a eu une tentative un peu au niveau de la d'un groupe cégétiste particulier sur Limoges à l'UL Nord, où ils ont syndiqué des tas de livreurs, en particulier. Mais ils n'ont jamais produit une lutte, finalement. Ils les ont regroupés, syndiqués, voilà, il ne s'est jamais réellement passé quelque chose.
Même voilà. Pas de l'information.
Si, de l'information un peu sur leurs droits, sur les risques aussi de leur situation quand ils bossent au nom de quelqu'un d'autre, parce que la plupart, ils bossent pas avec leur vrai papier. Le plus souvent, c'est du prêt.
C'est de la vente. Ils payent.
C'est pire que ça. Moi, il y en a un qu'on avait hébergé il y a quelque temps. Il disait, je pédale toute la semaine, mais les 5 premiers jours, c'est pour payer. Celui qui m'a prêté sa carte d'identité, et les 2 derniers jours, c'est pour moi. Et donc, comment lutter contre un patron qui... Enfin, parce que son vrai employeur, c'est finalement l'immigré qui lui a prêté sa carte d'identité pour bosser. Comment se mettre en grève dans ce cas-là, quand c'est... Voilà, ils sont pas en relation de travail avec la poste, avec d'autres trucs, avec Renopost ou des trucs. Ils sont en relation de travail avec un gars qui leur a dit je te prête ma carte d'identité, tu bosses à ma place et je te laisse les 2 derniers jours. Quoi.
Hein. Une sorte de passeur, quoi.
Ouais, c'est...
Philippe.
Sur les formes de lutte, il me semble que tout, enfin, au prisme de Saint-Nazaire,
Le plus fort.
Ouais, par rapport à ce que je vois sur Saint-Nazaire, les formes de lutte classiques sous forme de permanence juridique pour réussir à débroussailler des dossiers, il y a eu un constat d'échec et puis d'impossibilité de faire avancer les dossiers, et au point que nous, la permanence juridique, elle a purement et simplement disparu. Par épuisement militant, mais par absence de perspective et de débouchés. Et il y a eu de telles restrictions sur les possibilités juridiques que monter des dossiers ne permettait plus d'obtenir des régularisations. Et je ne sais pas si c'est vérifiable ailleurs. Hein, Denis,
tu montes pas les dossiers, c'est plus toi qui montes les dossiers. Moi, j'ai connu des recours qu'on faisait à la préfecture au nom de l'immigré, avec ma signature et la signature de l'immigré. Et on envoyait ça en recommandé aux services étrangers de la préfecture. Maintenant, c'est fini, ça. Tu peux plus faire ça. Tu ne peux que conseiller. Et là, au niveau des conseils, c'est souvent important. Apparemment, aussi, il faut savoir qu'une OQTF, quand tu as une OQTF, il faut surtout la contester. Si tu ne la contestes pas, tu es considéré comme l'accepté et tu ne pourras plus te faire régulariser un jour avec cette OQTF sur le dos que tu n'as pas contestée. Sauf si ta situation a changé. Par exemple, si tu es marié avec une Française ou un Français et si tu es père ou mère d'enfants français. Autrement, c'est foutu. Hein. C'est foutu.
Alors, quand je disais monter les dossiers, c'est aider les sans-papiers à constituer leur propre dossier pour espérer
une chose
régulière. Ça ne débouchait plus. Et donc, c'était un épuisement militant. Actuellement, les batailles sont en train de se recentrer quasiment exclusivement par rapport aux demandeurs d'asile qui sont déboutés et exclus des logements CADA. C'est-à-dire que les quelques forces militantes qui existent sur Saint-Nazaire bataillent pour qu'il n'y ait pas d'expulsion de logements CADA sans relogement. Pour des gens qui sont déboutés, souvent victimes du OQTF, bon, pour lesquels bien sûr effectivement il y a des recours, mais le temps que les recours se mettent en place, le fait d'être viré du logement parce que les associations gestionnaires des logements pour demandeurs d'asile ont de nouveaux demandeurs d'asile à mettre à la place et donc demandent à ce que les déboutés laissent la place pour les nouveaux arrivants. Enfin, c'est les jeux de chaise musicale. Et c'est à peu près les seules luttes concrètes qu'on arrive.
Et avec réussite
Très variable. C'est-à-dire que si on arrive à impliquer les municipalités qui ont éventuellement des logements sociaux à mettre à disposition, on arrive à obtenir des procédures de relogement. Mais avec en cascade d'autres problématiques, parce que les municipalités en question, c'est les petits villages qui sont excentrés par rapport à Saint-Nazaire. C'est pas la ville de Saint-Nazaire qui a la demande de logements sociaux et quelques, il n'y a pas matériellement les mêmes choses. Donc tu arrives à le faire dans les petites communes de Brière si tu arrives à développer. Mais après se pose pour les sans-papiers en question, qui ont bien sûr un boulot sur le centre urbain et sur Saint-Nazaire, la question de l'éloignement, et donc ça fout les gens dans des situations impossibles. Donc ça c'est un peu la réalité actuelle. Un épuisement à trouver ou à reproduire des forces militantes par rapport à des luttes qui arrivent à des choses un peu tangibles et qui font que ça vaut le coup de se battre. Et il y a ça. Il y a une lutte actuellement contre la construction d'un nouveau CRA sur Nantes, mais qui est bien en peine de réellement dynamiser des forces. Et après, ce qui me semble important aussi dans le recul, c'est que sauf pour les MNA, sauf pour des mouvements de travailleurs liés à un type rodoposte ou ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il y a aussi une désaffection des luttes collectives en termes de revendication des sans-papiers. Il y a les MENA, il y a les luttes de boîte où les sans-papiers se retrouvent et arrivent à monter quelque chose collectivement, mais il n'y a plus cette capacité d'organisation pour aller vers une revendication collective de la part de groupes d'immigrés structurés, soit sur des bases communautaires, soit sur des bases politiques, comme il y a pu y avoir à un moment donné. Et ça, je ne sais pas comment l'analyser. Est-ce que c'est uniquement local? Est-ce qu'il y a des témoignages de choses similaires ailleurs?
Lionel.
Oui. Parfois, moi, je remonte un peu plus loin sur ce qui a été dit. Je pense que les migrants, on peut les considérer comme des prolétaires ou des sous-prolétaires, et ils servent de variable d'ajustement, au même titre que les prolos français. Donc, tout ce qui est énuméré ici, sous une autre forme, c'est ce qu'on peut demander aussi aux prolos français maintenant, quand ils vont vers la NPE, quand il faut qu'ils justifient de tel ou de tel truc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils sont dans cette variable d'ajustement économique. Et en plus, ils sont une variable d'ajustement politique, parce qu'ils sont pris dans une course qui éventuellement sert le pouvoir politique. Et Retailleau s'en est très bien servi quand il a fallu qu'il se fasse élire comme leader de LR, où il s'est servi de son poste et ainsi de suite pour faire passer un certain nombre de mesures qu'il a durcies. Parce qu'à chaque fois, c'est une escalade dans le durcissement, alors que le paradoxe fait que quand il y a des sondages de la population française, les gens, il n'y a pas la submersion qui est dite. Les gens ne ressentent pas de submersion. Plusieurs sondages l'ont certifié, ça. Donc il y a aussi ça. Après, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, j'ai peut-être mal interprété, donc c'est pour ça que je vais le faire appareiller. Je pense qu'il y a des résistances nombreuses, justement. Parce qu'elles sont éparses, elles sont disséminées, alors, selon les pôles, ou comme on dit, les spots, maintenant, parce que c'est à la mode, il y a un spot. Nous, on voit sur Caen, par exemple... Il y a à la fois les associations classiques que vous citez ici, mais en même temps, il y a l'AG de lutte contre toutes les expulsions qui font que les camarades, et ainsi de suite, à chaque fois que les flics ou la préfecture intervient, un nouveau squat va se trouver ouvert pour les loger, ainsi de suite. Et il y a une semaine, 10 jours, c'est un des squats importants qui a cramé. Voilà, je n'ai pas les nouvelles de pourquoi il a cramé et comment il a cramé, mais c'est... je pense que c'est en parallèle, alors peut-être en plus dur, j'en sais rien, hein, je ne suis pas leur condition ni rien, c'est peut-être en plus dur, mais je pense que c'est le même parallèle que l'offensive de la bourgeoisie sur les prolos français, mais comme il faut que les prolos français se sentent encore un peu mieux, eh ben, il y a les migrants qui servent à ça, d'épouvantail, et comme il y a une course à qui va se faire élire, avec quelle mesure, et ainsi de suite, les aiguillons du Front National, du RN, là, servent à accentuer et à rendre encore plus difficile tout ça, mais en sachant que c'est vain, parce que, et voilà, je voulais la question que je poserais, c'est est-ce qu'on peut avoir d'autres références sur des pays qui, à un moment donné, ont pu être ouverts aux migrations ou à des migrants, et qui aujourd'hui... face à leur population et à la montée de leur extrême droite, ont refermé tous les systèmes. Et je pense notamment au Danemark, où c'est devenu quelque chose de très très dur. Tu vois.
L'Allemagne aussi.
Voilà, donc voilà, s'il y a des situations que vous connaissez, ça m'intéresse aussi. Je ne parlerai pas de l'Italie, parce qu'on peut en discuter après.
Oui, sur un point, sur deux points. Sur le fait que c'est des exploités comme les travailleurs français, etc., moi je dis non. C'est bien pire parce que même si actuellement ils essayent de serrer la vis et de restreindre certains droits des travailleurs français, le travailleur sans papier, il n'existe pas. Il n'a aucun droit. Il n'y a rien qui le protège. Alors qu'au niveau de l'ouvrier français, il y a quand même encore des trucs qui protègent un peu et qui mettent certaines règles, quoi. Et l'autre truc, c'est les squats. Eh ben, vous avez de la chance à Caen de pouvoir en ouvrir encore. Parce que, bon, il y a pas mal de villes où c'est plus possible du tout. Limoges, c'est impossible. Il y a eu 2-3 tentatives après l'expulsion du squat de la tenue de la Révolution. Mais à ce point, quelque part... ça ne fait pas une demi-journée. Hein.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de... ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron ?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligaries à Montpellier.
Radio Primitive.
Curieuse et engagée.